qui est philosophe de formation, professeur de diversité à l'UFR Arts et Sciences de l'Art Panthéon-Sorbonne. Il dirige et a dirigé des thèses, dont on l'a bien soutenu l'année dernière. Pierre Damébi travaille entre autres sur l'esthétique, la peinture, l'urbanité, la photographie et le cinéma, ainsi que sur le design et la technique, champ malheureusement minoré dans la philosophie contemporaine. Il a publié, entre autres, en 2012, le cinéma avant-après, et non pas après-avant comme la revue des rencontres de Lure, ainsi qu'en 2014, à Quantium Design, soutenu par le CNAP, qui est une centre d'aptique dont le design éditorial interroge les formats de lecture. Son dernier livre en date est Art et Industrie, Petite philosophie du Bauhaus, donc en 2015, qui est en fait une actualisation d'un texte publié en 1999. Et vous trouverez ces ouvrages à la librairie du village, si ça vous intéresse. Et avant de passer la parole à Pierre Damébi, je voulais mentionner sa pratique personnelle de la peinture, qui n'est pas pour rien dans sa réflexion d'aujourd'hui sur les formats. Et également dire au public, ça c'est peut-être moins connu, qu'il a initié il y a quelques années les rencontres de Beaulieu en Rouergue, dans le Tarn-et-Garonne, dont l'esprit n'était pas sans rappeler ce qui se vit ici. Merci.
Je ne sais pas si le micro fonctionne comme vous souhaitez. Là, c'est mieux. Alors, d'une certaine manière, Anthony a dit beaucoup de choses dont je voulais vous réserver la primeur, en particulier mon rapport à la peinture. Je ne savais pas que j'avais été si bavard auprès de lui. Je voulais commencer justement en vous disant que... Et il l'a dit déjà, que c'est par le biais de la philosophie que j'ai acquis, je dirais, le droit professionnel de parler en public et que je me sens moi-même autorisé à le faire, c'est-à-dire à être, au sens étymologique du mot, un professeur, puisque professer veut dire déclarer publiquement. Je ne professe donc pas être artiste. Pourtant, si je prends ce mot à contresens du devenir déclaratif qui l'a conduit à être désormais davantage le nom d'une profession que d'un métier. Alors, je dis cette phrase en pensant plus particulièrement aux artistes. Je ne pense pas que, disons, ce que j'appellerais globalement les designers soient concernés par ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je pense que le design est encore affaire de métier et moins de profession que... disons, ce qui se passe dans le champ de l'art, stricto sensu, si cette expression a tout à fait un sens. Donc si je prends l'art, l'histoire récente de l'art depuis un siècle, à contresens du sens historique qui l'a conduit à être désormais davantage le nom d'une profession que d'un métier, je pourrais dire que je suis artiste. Plusieurs questions me sont connues par et depuis une pratique qui me semble avoir été de l'ordre de la peinture, et qui me semble avoir été de l'ordre de la peinture même après que les formats et les ingrédients les plus habituels de cet art ne s'y sont pas retrouvés, parce que à partir d'un certain moment, dans mon travail sous le nom de peinture, je suis passé, on pourrait dire, à autre chose, apparemment, avec d'autres médiums, je ne sais pas quel est le bon mot, qui eux étaient apparemment pas les médiums les plus traditionnels de la peinture. Cette pratique, elle a été obstinée chez moi et parfois exposée. Elle est pour l'heure interrompue, mais j'ai fait le compte à cause de vous, parce que je me suis décidé à vous en parler, elle aura tout de même duré à peu près 35 ans, ce qui n'est pas rien. Y repensant à présent, je vous dirais que son enjeu en aura finalement été de chercher, par un certain cheminement dans le faire, j'utilise cette expression pour ne pas dire expérience, mais c'est l'étymologie de l'expérience, cheminement un certain cheminement, en l'occurrence dans le faire. En y repensant donc aujourd'hui, je dirais que son enjeu aura été finalement de chercher par un certain cheminement dans le faire, par une certaine expérience du faire, de chercher s'il était encore possible de faire des tableaux à l'époque contemporaine. Ce n'était pas affaire de thématique, car alors, ça n'est pas tableau, mais image que j'aurais dit à l'instant. Non, mon travail portait sur le tableau même, sur l'a priori du découpage, de la taille, de la mesure qui donne la surface du travail. Je vais naturellement y revenir. Raconter ici, cet après-midi, mon histoire avec ce travail que j'ai choisi de ne pas montrer n'aurait évidemment pas grand intérêt. Je l'évoque parce que s'y est impliqué, substantiellement dans un premier temps, de plus en plus explicitement par la suite, une affaire de format. Ce fut même, à la fin, l'affaire majeure de mon art, si j'ose dire, s'il en fut, du tableau. Nul doute qu'Anthony l'ignorait, je le croyais en tout cas, lorsqu'il m'a incité à venir vous parler. Mais j'y ai pensé aussitôt l'invitation lancée, j'y ai repensé aussitôt l'invitation lancée, et je me suis trouvé incapable de ne pas y revenir. Pour résumer, je dirais qu'il s'agissait d'établir, pendant toute la durée de ce travail, par quoi pouvait bien commencer l'entreprise de faire tableau, d'un faire tableau aujourd'hui, à l'époque de la photographie, du cinéma et bientôt, c'est quand j'ai commencé, c'était pas encore arrivé tout ça, et bientôt des écrans informatiquement gérés. En première approche, pareille recherche venue de la peinture, il touchait encore, sans produire, pour ce qui me concerne du moins, trop de gêne. Peinture n'est-il pas en effet le nom de cette technique ou de cet art qui a historiquement pris en charge le faire tableau et ses enjeux? Hérité de cet art, est-ce que ça n'était pas honorable? Mais par la suite, la question fut pour moi de savoir, et c'est pourquoi j'ai souligné à l'instant en vous parlant le mot « aujourd'hui », la question par la suite fut de savoir s'il y avait quelque actualité à accepter l'héritage de la peinture. Si oui, est-ce que c'était pour procéder comme avant, ou sinon comme avant, d'une manière encore assez proche de l'avant? Je me suis finalement mis à penser que la peinture avait été par quelque obligation, et quand évidemment je n'étais pas même né déjà, elle avait été par quelque obligation déterminée à ne plus commencer pareillement qu'autrefois, c'est-à-dire à se sauver. Et c'est bien ce dont j'ai pris acte en dernière analyse, que la peinture, pour l'essentiel, s'est sauvée de ce qui l'a constituée en art majeur, sauf peut-être, et tel aura été l'enjeu de mon travail artistique en tant que recherche, sauf peut-être pour ce qui concerne un élément de son commencement, mais si elle ne s'est pas sauvée, ou si toute la peinture ne s'est pas sauvée de cet élément du commencement historique de la peinture, c'est parce que cet élément lui-même n'est pas spécifiquement propre à la peinture, mais que c'est une composante plus générale, plus généralement technique, des commencements en général. De cet élément, je ne saurais vous parler cet après-midi sans le mot de format. Vous vous attendez peut-être, puisque je vous ai dit envisager de traiter du commencement en général, vous attendez peut-être à ce que je vous parle des intentions premières sans lesquelles nous pensons volontiers, le plus souvent, que rien de sensé ne saurait commencer. Mais j'ai déjà dit et écrit, pour ce qui me concerne, qu'il n'est pas de faire qui ne commence à deux. Je suis l'auteur d'un petit livre dont le titre est « Commencer à deux ». L'intention ne se met pas en œuvre à soi seul, elle ne se met jamais en œuvre à soi seul. Elle n'existe ni absolument ni isolément. Elle a lieu toujours face à une réalité qui peut être supposée inerte en soi et dont je vais vous dire, vous vous en doutez, qu'elle peut être par le format concerné. Le format serait, je vais y revenir, un trait de cette inerte avec quoi toute intention peut se mettre en œuvre pour commencer. Je dis cette réalité qui, d'une certaine manière, accompagne nécessairement toute intention de faire, mais qui n'appartient pas à l'intention. Je dis cette réalité, je viens de la dire inerte, en prenant l'adjectif dans son sens banal, hein, ce qui veut dire pas d'activité, pas de productivité apparente, mais aussi en prenant l'adjectif au sens plus scientifique, où Newton, par exemple, parla en son temps de la force d'inertie. L'inerte auquel telle ou telle intention fait face n'est pas donc sans qualité. Il n'est pas inerte seulement au sens banal du terme. En constituant, parce qu'il constitue l'un de ses traits, le format a donc des qualités. Mais elles sont ces qualités à chaque fois singulières. Certains formats, pour aller très vite, sont par exemple plus minces que d'autres. Selon mon expérience, le travail auquel j'ai fait référence plus haut, et en fait pas seulement le mien, mais bien au-delà, le travail du tableau plus généralement, selon donc mon expérience et l'expérience historique de la peinture en général, tout tableau aura toujours commencé par la rencontre et l'élection d'une singularité de format ou d'un singulier format. Je viens de dire rencontre, j'ai dit deux mots, rencontre et élection. Je vais laisser un peu de côté élection, je ne peux pas tout faire le même jour. Je vais m'arrêter un peu sur rencontre. Je veux dire qu'il faut d'abord rencontrer quelque chose qui est inerte aux deux sens que j'ai dit, pour que l'intention de mettre en œuvre commence comme telle, mise en œuvre. Il faut rencontrer quelque chose dont l'un des traits est format. Donc je viens de dire rencontre, sous-entendant probablement qu'il est d'autres, alors je ne sais pas comment dire, pas d'autres mises en œuvre, d'autres faire, qui pourraient ne pas effectuer cette rencontre pour commencer. Qui ne serait peut-être pas d'ailleurs un travail au sens où j'ai envie de soutenir ce mot, mais qui serait peut-être plutôt une économie du travail. Peut-être que justement dans l'économie du travail, il n'y a pas la rencontre avec le format dont je vais essayer de vous parler dans les minutes qui viennent. L'économie du travail, c'est une expression qui est importante pour moi. Je pense que nous souffrons beaucoup aujourd'hui de l'économie du travail, à tel point qu'il n'y en a pas beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'emplois éventuellement, mais pas de travail. Peu. Pas pour vous, vous savez ce que c'est que travailler, mais beaucoup auprès de nous ne sont pas dans les conditions où le travail est possible parce que, justement, il est économisé d'une certaine manière d'avance. Il n'y a pas de rencontre avec quelque chose de matériel. Quelle allure donc, quelle nature cette rencontre, par quoi commence ou commencerait, selon mon hypothèse, un travail que je dirais véritable. J'ai souvent évoqué, excusez-moi d'y faire référence, ce sujet dans mes livres ou dans mes séminaires. Il y va de toute une pensée qu'on pourrait dire, suivant les moments historiques qu'on voudrait bien considérer, il y va de toute une pensée qui a pu se dire, si vous voulez, selon les moments de l'histoire, de la démiurgie, de la création, de l'art, de l'industrie, ou donc tout simplement du travail. La rencontre qui m'intéresse, et qui m'intéresse depuis longtemps, extrêmement longtemps, la rencontre qui m'intéresse est celle qui est venue à l'idée de Platon dans le Timée, c'est un vieux texte, et qu'a, ne le sachant sans doute pas, ce qui n'empêche en rien le fait, et qu'a reprise, ne le sachant sans doute pas, et surtout décalée, Paul Klee. Texte de Paul Klee, je le considère comme des textes extrêmement importants et magnifiques. Je ne parle pas seulement du travail de Paul Klee, mais de sa mise en texte. Dans lesquels, évidemment, il ne cite pas Platon, mais je pense qu'il décale ce qu'on peut lire dans le Timée, comme si, à 25 siècles de distance, quelque chose se reprenait. Bon. Se reprenait en se décalant. Ce n'est pas un cercle qui revient sur lui-même, c'est une spirale. Le régime de pensée, alors c'est clair dans les textes de Paul Klee, mais c'est déjà, d'une certaine manière, dans le mot lui-même, avec lequel je réfléchis depuis quelques minutes, de rencontre, le régime de pensée, disons, de la rencontre, en tout cas, quand je lis Paul Klee, je ne peux pas ne pas dire ce que je vais vous dire, le régime de la rencontre est d'ordre sexuel. C'est-à-dire, je veux dire par là, que ça suppose a priori la dualité, ou le duel. Pour Paul Klee, l'art de peindre suppose un duel. Et je dirais même, peut-être pour commencer. En présence dans ce duel, sont en présence dans ce duel des entités qui n'ont pas les mêmes qualités. L'une projette des idées, l'autre est matricielle. Je vais très vite sur des jeux de traduction des textes de Paul Klee. Il y a une très belle traduction qui est en même temps parfaitement inexacte, mais complètement exacte dans l'esprit, elle n'est pas du tout littérale, qui donc traduit un mot allemand de Paul Klee par le mot de matrice. Donc je reprends cette traduction que je crois absolument juste dans l'esprit, et je vous épargne le détour par la langue allemande. Donc il y a dans le duel une entité qui projette des idées, une autre qui est matricielle, ou pour jouer sur les racines de ce mot, maternelle ou matérielle, les mêmes étymologies, hein, matrice, matière, maternité. S'agissant de ce qui est historiquement appelé peinture, et qui a beaucoup existé donc, je l'ai dit tout à l'heure, comme art du tableau, je dirais, j'ai déjà dit d'ailleurs, il y a quelques instants, que le format, en tout cas ce fut mon expérience, est un trait de matrice. Trait, c'est-à-dire, suivant le régime métaphorique avec lequel je réfléchis actuellement, trait, c'est-à-dire cet indéfini qui, sur un visage, par exemple, institue dans l'ordre du désir ce qui pourrait n'être autrement qu'une pulsion qui cherche à s'assouvir et à s'approprier un objet. Chacun d'entre nous peut être arrêté par un trait sur un visage. C'est avec un tel arrêt, avec un arrêt, par comparaison, sur le trait du format, qu'aura toujours commencé, me semble-t-il, l'art du tableau, et qu'aura toujours passé en désir l'intention de faire quelque chose. Si je l'ai dit indéfini, ce trait, c'est pour évoquer son propre caractère de ne pas parvenir au graphique, ou de ne pas s'exposer dans l'ordre graphique. Il y va d'un irrationnel. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure, par allusion, certainement faute de temps, en évoquant les beaux formats de l'architecture, et par exemple, ses nombres d'or. Cet irrationnel, on peut l'aimer, mais il se retranche à la prise. Certes, le régime métaphorique que j'adopte ici depuis quelques minutes est osé. Et beaucoup d'entre vous, peut-être, pourront le dire, malgré Klee tout de même, étranger à l'expérience vécue de l'art du tableau, où le format semble bien au contraire apparaître comme une proportion définie, un certain rapport longueur-largeur par exemple. Eh bien, examinons ce rapport. Supposé, je le rappelle dans le raisonnement que je conduis, donné par matrice. Et voyons comment il peut s'aborder. Tel qu'il est, il peut être considéré debout ou couché, en portrait ou en paysage, comme on pourrait dire aujourd'hui dans un autre contexte. Je vois que vous souriez à cette allusion. Là a déjà commencé la rencontre. L'aimer plutôt debout que couché, ou plutôt couché que debout. Là a déjà commencé la rencontre, là déjà elle s'est engagée. Mais qu'elle s'engage ainsi ne signifie pas que son histoire s'y arrête. Au reste, ce moment d'engagement est susceptible de prendre un certain temps pour se décider, en tout cas c'était bien mon cas, et rien n'empêche qu'il y soit fait retour par la suite. Ce fut le cas, pas assez connu à mon avis, de Kandinsky, découvrant littéralement la peinture à laquelle son nom allait se lier par la suite, découvrant donc cette peinture du fait d'un tableau par lui déjà commencé, déposé un certain temps, je le cite dans son, en gros son l'équivalent d'un journal, déposé un certain temps de trois quarts côté, c'est-à-dire en inversion de format, et là, dans cet état, saisissant le regard du peintre qui, autrement, devant le tableau dans son premier état, était indifférent, sinon insatisfait. Donc c'est un retournement de format qui a lancé la peinture à laquelle allait se lier le nom de Kandinsky. Il le dit lui-même. Il est en tout cas possible, même si ça n'est pas classique, et ce point est dans mon esprit important, il est possible de traiter d'une composition qui consisterait à chercher s'il existe pour tel format donné ou pour divers formats qu'on ferait jouer ensemble des zones particulièrement sensibles ou particulièrement névralgiques ou particulièrement nerveuses, excitables, etc. Alors, je suis allusif, si vous souhaitez que je reprenne ce point tout à l'heure en discussion, c'est comme vous voulez. Je suppose en tout cela, suivant encore une fois la leçon de Paul Klee, que le tableau n'est pas seulement passible de l'intention qui le travaille, mais qu'il y réagit, qu'il y répond, qu'il la situe. Bien sûr, pareille recherche des points ou zones sensibles du format est réputée, aura été réputée, abstraite. Je dirais pour ma part qu'elle existe pour la forme, et que cette existence pour la forme n'est pas sans indépendance à l'égard, n'aura pas été sans indépendance à l'égard de la fonction classiquement admise du tableau, à savoir celle de fournir une culture en images d'époque. Donc vous avez sans doute entendu que je viens de faire jouer dans mon texte la fameuse à la fois opposition et articulation forme-fonction. Qu'il y a une fonction du tableau historique qui est de fournir une culture en images. Alors cette fonction historique du tableau de peinture, elle est concurrencée à partir du 19e par d'autres techniques qui sont capables de fournir la culture en images. C'est la fonction imageante, imaginaire, si vous voulez, d'imagination au sens premier du mot de ces techniques. Mais il y a quelque chose d'autre par où du travail humain aura eu lieu. Alors la question de savoir si ça peut encore avoir lieu, qui est justement de pas seulement faire des choses pour la fonction, mais de faire des choses pour la forme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, dès qu'on a affaire à du format, faire des choses pour la forme? C'est ça, au fond, que j'essaye de... l'art du format, que j'essaye de un peu réfléchir cet après-midi. Il n'est rien de ce que je viens de dire qui ne puisse être transféré, parce que ce que je viens de dire apparemment, ou le plus apparemment, comme j'ai dit en commençant, aura touché, vient de la peinture. Il n'y a rien de tout ça qui ne puisse, à mon sens, alors je vais être très rapide, je l'affirme, je regarde ma montre hein, tout en vous parlant, pour ne pas être trop long, il n'y a rien de tout ça qui ne puisse être transféré à la photographie, au cinéma, ni même aux écrans, sans lesquels nous n'aurions guère d'expérience sensible de l'informatique, même si, dans ces cas, aussi bien la photographie, le cinéma que les écrans d'aujourd'hui, le format semble davantage imposé par une industrie en amont que choisi en entrée, si j'ose dire, par un opérateur singulier, qu'on pourrait appeler l'artiste. C'est pourquoi non pas la peinture, mais quelque chose à quoi cet art a tenu, le tableau, dans mon exposé de cet après-midi, c'est pourquoi la peinture peut, a pu ou pourrait se sauver en d'autres modes d'art, la photographie, le cinéma, les écrans d'aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ou si ce cas est très rare, c'est sans doute parce que nous portons pour l'essentiel considération à ces autres modes techniques en raison de leur fonction expressive, c'est-à-dire de leur capacité à transporter des contenus expressifs, à faire image, et non de leur dynamique formelle, de leur qualité, ou pour parler un tout petit peu latin, de leur quidité. C'est peut-être aussi parce que la notion de format se présente désormais à nous en raison d'une autre expérience, celle dite du formatage, expérience qui, sans instruire de procès à l'égard des préalables d'industrie que je viens de mentionner rapidement, leur fait trois. Ce formatage est une opération qui institue la réceptivité d'une surface, qui la rend, si vous voulez, inscriptible et surtout serviable. Un disque formaté est un disque qui va pouvoir servir à une place déterminée dans un enchaînement de machines. Le format, ici, est moins indéfini qu'il n'était, moins ouvert au désir de faire. Il a perdu en dignité matricielle pour devenir élément situé lui-même dans un alignement d'opérations successivement obligées. Pour qui a des intentions, il ne se rencontre plus. Ce n'est plus un adversaire, au sens premier du mot, adversus, tourné vers, donc les affronter, front à front, se regarder par conséquent. Ce n'est plus un adversaire ni un partenaire, c'est davantage, c'est surtout un moyen qu'on peut estimer en raison de ses avantages. Ce point n'est pas tout à fait négligeable, il est des formats plus avantageux que d'autres, plus riches en capacités, inclusifs eux-mêmes d'autres formats, et par conséquent peut-être plus potentiels et du coup peut-être revenant un peu du côté de la matrice. Hein, je pense, oui, que ce soit très concret, que le formatage en, je sais pas quoi, EXT2, 3, 4 de Linux inclut le FAT32 de Microsoft, la réciproque n'est pas vraie, et donc ce format est plus intéressant et peut-être plus avantageux sur le plan technique, sur le plan économique, j'en sais rien, sur le plan technique, sûrement. En tout cas, il est inclusif. Donc peut-être il a une dynamique qui devient intéressant pour qui a l'intention de faire quelque chose. Mais enfin, globalement, l'expérience du formatage semble avoir remis à un autre temps l'expérience historique de la rencontre du format qui était celle du tableau. Pourtant, tout est-il perdu de l'expérience matricielle dont je vous ai parlé dans le premier temps de mon exposé? J'ai dit que non, en passant, mais sans vous en donner la raison profonde. Pour la trouver, cette raison, il ne faut pas raisonner dans un esprit conservatoire. Il faut plutôt apprendre à éclairer ce que l'on peut comprendre du passé à l'aune des problèmes du présent. C'est la même démarche que j'ai trouvée en substance chez Walter Benjamin lorsqu'il a réfléchi à l'arrivée de la photographie à la fois dans nos pratiques et dans notre culture. Non pas se demander comment cette photographie avait pu se faire contemporaine de la peinture, mais comment la peinture avait dû devenir, elle qui était pourtant déjà là, contemporaine de la nouvelle technique. Si l'on suit cette démarche, on repérera particulièrement le point que j'ai dit tout à l'heure sans l'appuyer suffisamment, tout occupé que j'étais à vous parler de tableau. On repérera donc ce point que le format est une donne, et au-delà, qu'il n'est rien qu'on ait, on repérera ce point, que au-delà que du fait que le format est une donne, on n'a jamais rien fait sans donne. Ça, quoi que ce soit, commence à deux, sauf à émaner d'un dieu, c'est-à-dire à déborder l'humain. L'affaire des hommes n'a jamais été de former absolument, ex nihilo, en toute puissance, mais elle a toujours été de faire, à moins qu'ils se prennent pour des surhommes, les hommes, elle a toujours été de faire venir au mieux, non pas même la forme, mais de la forme, faire venir au mieux de la forme, à quelque chose, pour quelque chose qui est déjà là. Le mieux de forme possible dans un format donné, telle a toujours été la part de l'art, pour ce qu'il a lui-même, cet art de dimension plus technique que symbolique. Voulez-vous un exemple? Celui des cisterciens, avec leur beau lieu. Anthony a parlé des rencontres de beau lieu en Rouergue, où il y a une abbaye cistercienne, et vous avez beaucoup d'endroits dans ce pays qui s'appellent beau lieu, et où sont construites les abbayes cisterciennes, puisque justement, ils repéraient les lieux à certaines qualités de format de ces lieux, qui leur semblaient au fond des niches naturellement formatées pour que puisse se cristalliser leur chaîne de construction, leur projet, on dirait aujourd'hui. Par extension, si vous voulez un exemple ou un autre exemple, évoquons rapidement, ou j'évoquerai rapidement, celui de l'architecture en tant qu'elle se sera confrontée à l'exercice des proportions. Et pour cela, je vais, faute de temps, utiliser une expression excessivement synthétique, elle se sera confrontée pour cela, en tant qu'art des proportions, aux lois géométriques des nombres, qui sont une donne pour elle. Dans cette confrontation, son fait, son travail, son opération, son œuvre à l'architecture ne furent pas secondaires, mais ils furent seconds. Tout est là. L'existence d'un a priori irréductible ne fait problème qu'à celui qui refuse de se considérer comme second et qui, partant, ne voit rien que de secondaire dans les opérations de second lieu où se ménage la donne. Alors j'avais annoncé, quand il m'a été demandé de faire 4 ou 5 lignes pour préfacer, disons, cette conférence cet après-midi, j'avais annoncé que je traiterais du format comme condition de possibilité. Et sans doute il vous semble que je n'ai pas respecté cette annonce. Je voulais vous rendre attentif au fait que cette notion, la condition de possibilité, désigne autre chose qu'une cause. Quelle vient de la différence entre un système de cause et des conditions de possibilité. Que le possible ait des conditions, hein, ce qu'on entend dans l'expression conditions de possibilité, que le possible ait des conditions n'oblige pas ces conditions à être systématiquement opératoires et à produire obligatoirement des effets. Quand il y a cause, en revanche, il y a nécessairement effet. Le lien de causalité est un lien contraire. C'est une hypothèse que je fais depuis longtemps, que l'art n'est pas inscriptible dans un régime de lien de causalité. Ainsi, par exemple, n'y a-t-il pas de cause, mais des conditions de possibilité à la peinture de Cézanne? Par exemple, elle aurait pu, cette peinture, ne pas se produire. Elle n'avait rien de nécessaire. Il a fallu une rencontre qui était possible, mais pas certaine. Elle n'avait rien de nécessaire, cette peinture. Et j'ajoute, elle n'a toujours rien de nécessaire. Qui sait si, dans une sorte de retournement culturel, pour l'heure encore improbable, mais pas impossible, elle ne sera pas un jour la peinture de Cézanne remisée, comme ne comptant pas beaucoup pour nous. Je fais juste allusion au fait qu'en ce moment, au musée d'Orsay, on entreprend de remiser certains tableaux des modernes pour exposer au nom de la vérité historique de Rochette, si j'ose dire, les peintres pompiers de la même époque. Donc qui sait si la peinture de Cézanne n'a pas plus de fragilité, même aujourd'hui, hein, où pourtant elle a eu lieu, hein, qu'elle soit encore dans un registre de conditions de possibilité et pas d'une existence nécessaire. Quoi qu'on en pense, hein, que ça nous plaise ou pas, l'évolution que je viens de dire du musée d'Orsay. Donc dans l'expression « conditions de possibilité », tout est pluriel, rien n'est absolu. Ce qui émarge à des conditions peut ne pas être. Alors, puisqu'il est tard, je vais insister sur ce point seulement par une remarque. Dans l'art global des caméras, j'entends par là, quand je dis ça, l'art global des caméras, photographie et cinéma, que je considère en la circonstance comme un ensemble de même technicité foncière. Et des caméras à la base, au sens anglais du mot, à la base dans les deux cas. Donc, dans l'art global des caméras, photographie et cinéma, si vous voulez que je parle plus un langage plus ordinaire, il a pu y avoir des formats dominants, voire à certains moments des formats inévitables, mais pas de formats radicalement obligatoires. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de rencontre et d'élection du format. Toujours une élection, hein, qui fait qu'un format est travaillé par des intentions de mise en œuvre. Donc à certains moments, les formats dans l'art des caméras ont pu être dominants, voire inévitables, mais jamais, au fond, radicalement obligatoires. D'une part, vous noterez que le travail de la technique, les opérations de second lieu, dont je viens d'essayer de dire très rapidement, il y a quelques minutes, l'importance, le travail de second lieu de la technique est allé, là comme ailleurs, dans le sens d'une désobligation. Le travail de la technique a multiplié les formats photographiques et cinématographiques. Donc c'est allé dans le sens d'une désobligation. Et c'est toujours comme ça avec le travail second et pas secondaire de la technique, qui est pour moi l'art de la technique. D'autre part, nul format ne s'est jamais donné seul en absolu. Le 24-36 en photographie n'a existé que lié à des qualités de maniabilité de l'appareil photographique qu'on cherchait à réaliser. Quant au 6-6 ou au 8-8 des chambres photographiques, vous ne sauriez l'analyser sans l'articuler aux qualités mécaniques et chimiques de l'ensemble technique avec lequel ou avec lesquels ces formats se seront donnés à la pratique. Je fais l'hypothèse qu'il pourra en aller, qu'il en va déjà de même avec la dernière génération technique, donc celle que j'appelais tout à l'heure des écrans, par quoi l'informatique est pour nous sensible. Si cette hypothèse qu'il en va déjà de même, qu'il va en aller de même avec les écrans informatiques, si cette hypothèse ne semble pas aller de soi, c'est que nous n'avons pas encore assez travaillé avec les donnes de cette génération technique. Pour l'heure, elle manque de forme. Nous n'avons pas encore son art, par bribes. C'est que nous sommes sous le coup de l'économie sans laquelle, d'après mes recherches, cette fois plus conceptuelles qu'artistiques, aucune invention ne parviendrait à s'installer parmi nous. D'ailleurs, je ne peux pas le montrer, ça. Alors, surtout pas cet après-midi, parce que là, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Mais je suggère qu'il y a peut-être une loi des inventions techniques. Donc, j'ai des cas, si vous voulez. J'ai essayé d'empiler des cas pour dire que cette idée n'est pas stupide. Je ne peux pas la montrer, mais au moins, je peux montrer qu'elle n'est pas stupide. Peut-être nous devrions nous mettre à penser qu'il n'est aucune technique qui puisse s'installer, aucune invention qui puisse s'installer parmi nous, c'est-à-dire que nous puissions cultiver. Non, cultiver, ça veut dire jardiner, que, étymologiquement. Aucune invention technique que nous ne puissions jardiner, cultiver, faire germer, faire produire, enfin tout ce que vous voudrez, vous voyez, si on suit cette... sans que d'abord, c'est un paradoxe, cette technique soit économisée dans ses capacités. C'est-à-dire que ce qui fait qu'une technique s'installe, c'est que l'économie y trouve son compte. Voilà. Et donc ça commence pas... si vous voulez, par le plus de capacité possible. C'est de la restriction, comme dire le mot, hein, économiser quelque chose, c'est-à-dire mettre de côté, mais ça veut dire aussi, on sent que ça veut dire resserrer, voilà. Je pense que les inventions techniques s'installent parmi nous sur un mode économique et pas d'abord sur un mode artistique. C'est pourquoi il faut du travail en second lieu pour les épanouir, hein, ces techniques. J'ai un mot pour dire ça que j'utilise dans mon travail, c'est le mot, je joue évidemment comme trop souvent sur les mots, la découverte, hein. Il faut les découvrir. Elles arrivent couvertes, elles arrivent à couvert, elles ne sont pas manifestes, les inventions, et il faut les découvrir par un travail second et pas du tout secondaire qui les épanouit parmi nous, notamment en leur donnant de la forme. Donc je pense qu'avec la dernière génération des avancées techniques, nous en sommes là. Elles sont inventées. Nous sommes en train de les découvrir, c'est-à-dire de les épanouir. Mais pour l'essentiel, il nous reste encore à découvrir ce qui vient d'être avec elles mis au monde, c'est-à-dire que nous avons encore à en produire les possibles. Voilà. Je m'arrête là.
C'est bon. Il m'a dit que si vous n'avez pas de questions, il l'avait pour lui-même. Je pense que vous en aurez. En tout cas, j'en ai une. Vous avez déjà commencé à y répondre. Donc, à quelles conditions on ne pourrait pas parler de format, d'intuition format numérique. Vous avez déjà commencé à y répondre, mais si vous développez encore un petit peu ce point, ça m'intéresserait.
Bon, la question est... Je ne sais pas si la question est si compliquée que ça, mais en tout cas, elle est longue. Si on voulait la traiter, il me semble. Alors, une fois que j'ai fait des conférences, après, je suis jamais content. Je me fais des tas de reproches. Je me dis là, tu aurais pu être plus clair. Là, tu aurais pu dire autre chose. Je me tutoie allègrement. Assez familier que je suis moi-même. Et donc, par exemple, là, j'aurais sûrement pu être plus explicite à un passage de mon discours. Bon, peut-être que j'ai réussi à le laisser entendre un petit peu. C'est-à-dire, je pense qu'avec cette génération, cette poussée technique-là, la dernière en date, les choses sont plus compliquées que du temps de la peinture, si j'ose dire, qui était déjà un art compliqué, en réalité. Hein. Parce que se superposent peut-être deux. Alors, soit, je ne pense pas deux notions de format, mais deux façons de l'éprouver, en tout cas. Bon, celle du formatage de la disquette, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, hein, qui était une donne radicale, voilà, inexposable. Mais au fond, les lois géométriques des nombres auxquelles se confrontaient les architectes cisterciens, c'était aussi d'une certaine manière inexposable, en tout cas incalculable. Ça rentrait dans des tracés, on faisait des tracés pour jouer avec, pour faire avec. Mais bon, il y a ça, il y a le niveau donc, du formatage, de quelque chose qui serait de l'ordre de lois qu'on ne peut pas manifester. Empiriquement, sensiblement, et puis alors des formats. Alors les formats qui seraient, on se rappelle, pour les plus anciens dont je fais partie, le 800-600, c'est même pas des premiers temps, hein, les petits écrans, la taille des écrans, la précision de leur... Il y a plusieurs niveaux de formats qui se superposent dans une certaine mesure. Voilà. Et à chaque fois, c'est une donne avec laquelle du travail est possible. Voilà. Alors, le travail, est, si vous acceptez d'appeler art le travail, que ça commence l'art par du travail technique de second lieu, comme j'ai essayé de dire, même la recherche de formats plus dynamiques ou de plus grande capacité, comme le EIST4 de Linux par rapport au FAT32 de Microsoft, c'est un point de départ pour qu'il y ait des possibles avec l'informatique. Alors après, il y a le travail qui nous ramène sur des questions formelles de plus longue tradition. Qu'est-ce qu'on met dans un rectangle? C'est toujours intéressant de voir que les formats donnent toujours lieu, enfin la plupart en tout cas, à des divisions qui ne tombent pas juste. 16/9, 4 tiers, etc. 24/36... On a aussi avec les écrans une expérience des formats dans lesquels quelque chose de la peinture peut se sauver.
Oui, vous avez dit que la peinture pourrait se sauver en étant transférable aux écrans. Et plus loin, vous avez cité Walter Benjamin qui justement dit part de l'aura de l'œuvre d'art de reproductibilité de l'œuvre d'art qui finalement n'est pas reproductible puisqu'elle est originale notamment dans la peinture. Et après ça me renvoie à d'autres choses sur le format, justement c'est des paires de l'hypertexte justement avaient prévu quelque chose sans format et on voit à travers l'histoire de l'informatique justement le format nous a rattrapé dans la page d'écran, dans les formats d'écran, etc.
Je ne sais pas si j'ai entendu les bonnes questions, celles que vous souhaitez. J'ai entendu des choses, en tout cas. Bon, d'ailleurs, vous me faites penser à quelque chose qu'il faut que je dise à la question d'Anthony juste d'avant. Il y a aussi des formats des futurs dans l'informatique. Bien sûr, hein, donc c'est encore une couche supplémentaire. La peinture s'est sauvée. Alors, bon, ça, c'est une expression que j'ai utilisée il y a longtemps dans mon travail, disons, conceptuel. Évidemment, il y a un jeu de mots. Hein, la peinture est sauve, est restée sauve à condition de s'être sauvée de sa propre tradition. Alors, les prémices de ça, pour moi, ça serait Géricault qui commence, dans une certaine mesure, à se sauver des sujets, des grands sujets de la peinture d'histoire, par exemple, mais qui aussi se sauve du côté technique, parce qu'il ne fait pas ses clairs-obscurs selon la méthode académique, enfin, etc. Et puis, ça sort petit à petit, et de plus en plus, hein, de la tradition. Et certainement que l'une des raisons, c'est pas la seule, mais l'une des raisons qui aura conduit la peinture à se sauver, c'est pour des fonctions, pour un certain nombre des fonctions qu'elle remplissait, ma foi, pas trop mal, la concurrence de la photographie. Il a fallu la voir ailleurs et autrement. Voilà. Alors, quand Benjamin repense tout ça, il écrit la petite histoire de la photographie en 1900, il a publié en 1931, c'est-à-dire, tandis que le brevet de la photographie, c'est 1839, ça fait une centaine d'années après, hein, grosso modo, donc il se retourne sur ça une centaine d'années après. Et effectivement, il parle, comme vous l'avez indiqué, de Laura, mais je pense que, c'est un enjeu, la lecture de Walter Benjamin, mais moi, je me range du côté qui est de dire que Benjamin ne soutient pas une idée oratique de l'art. Il dit qu'il y a eu une liaison de l'art et de l'aura, mais que nous sommes passés à une autre époque, hein, l'époque de la reproduction, et que dans cette époque-là, il faut penser, d'ailleurs c'est une quasi-citation de lui, il faut désormais penser l'art en tant que photographie. Hein, c'est-à-dire, il faut même la peinture. En tout cas, d'après la lecture que j'en fais. C'est pour ça que je disais dans mon exposé tout à l'heure qu'il faut, penser que la peinture aura eu à devenir contemporaine de la photographie, de même que la photographie a à devenir contemporaine du cinéma, de l'informatique, etc. Il faut, à mon avis, essayer de penser dans ce sens-là. Et c'est la condition pour que quelque chose de l'histoire de ces arts anciens se sauve. Dans les deux sens du mot. Voilà ma thèse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Vous permettez aussi l'intervention. J'ai le sentiment, ou avec ce sentiment, que la technique a encore le temps, les techniques nouvelles ont encore le temps de s'épanouir pour devenir art. Autrement dit, on a le sentiment que l'évolution technique est si rapide qu'on se trouve pris d'emblée au dépourvu. J'ai un exemple historique, évidemment, qui est tout à fait classique. Le chemin de fer, invention nouvelle autour de 1840, a simplement imité les normes, repris les normes des diligences pour l'écartement, notamment, et en quelques années, on a installé 2 ou 3 000 km de rails, de sorte que d'emblée, la technique nouvelle était complètement assujettie aux conditions de la technique précédente. Alors j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la technique va plus vite que les possibilités même de son épanouissement. Autre exemple, la télévision n'a pas eu le temps de naître, elle a d'emblée été investie de l'intérieur par les emplois qui sont ceux de réalisateurs, de producteurs, de caméramen, etc. On a reconduit toutes les catégories sans être en mesure d'imaginer une autre façon de faire de la télévision.
Alors, je réagis, si vous voulez, d'abord sur la télévision, puis après, je vais venir à la première partie, si vous voulez, de votre remarque, qui me semble être plus générale de mon point de vue. Je suis absolument d'accord sur le fait que la télévision est un cas. Et probablement, aura probablement été, parce qu'à mon avis, elle est déjà passée, la télévision, au stricto sensu. Aura probablement été un cas, qu'il faut regarder comme une exception à ma proposition de loi des inventions. En effet, je pense que la télévision n'aura pas été un art, probablement. En revanche, la vidéo, oui, qui est quand même le cœur technique de la télévision. C'est-à-dire, en fait, peut-être qu'il faut dire les choses comme ça. C'est que pour que la télévision soit un art, il aura fallu que quelque chose de son cœur technique sorte des conditions d'exploitation de cette technique-là, d'exploitation économique et idéologique d'ailleurs de cette technique-là, qui s'appelle pour nous télévision. Donc peut-être la condition pour que le matériel technique au cœur de ce qu'on appelle télévision s'épanouisse en art et s'épanouisse pour nous, que ça nous fasse travailler, que ça nous donne à voir, à entendre, à tout ce que vous voudrez de ce type-là, c'est que, justement, la vidéo se découvre de la télévision. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé, il me semble. Un peu. En tout cas, c'est pas impossible, disons les choses comme ça. C'est pas impossible. Alors, en ce qui concerne, de manière plus générale, les temps d'épanouissement, si vous permettez, je vais relever dans votre question, dans votre remarque, le petit bout d'expression « on a le sentiment que ». Voilà. Parce qu'effectivement, c'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus que je pourrais, si vous voulez, faire tenir quand même le travail conceptuel que j'essaye de mener. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les choses vont vite et que le temps d'épanouissement n'est pas là. Mais en fait, si on regarde par exemple pour la photographie, il faut 20 ans, exactement 20 ans, entre le brevet et la grande colère de Baudelaire au salon de 1859, hein, qui dit en substance la photographie n'est pas un art, c'est une industrie, etc. Donc il se met en colère parce qu'il y a une pratique qui a justement été une pratique dans laquelle la peinture s'est couverte de peinture, si j'ose dire, sous la peinture, sous l'autorité de la peinture, à chercher à se présenter comme elle, dans les mêmes salons, etc. Et Baudelaire se met en colère. Il faut 20 ans. Voilà. Il faut 20 ans. Et si je prends le texte de Benjamin, qui revient lui-même sur le texte de Baudelaire en 1931, les premiers photographes qui seraient sortis, qui auraient découvert, si vous voulez, la photographie, ils sont au début du XXe siècle, dans les noms que donne Benjamin, c'est-à-dire 50 ans plus tard. Bon. 50 ans, c'est le temps entre l'invention de l'informatique et le début de sa découverte par nous et parmi nous, me semble-t-il. C'est des temps quand même assez longs. Voilà, c'est des temps assez longs. Dernier élément de réponse à votre remarque, de toute façon, j'ai parlé aussi clairement que je pouvais à la fin de conditions de possibilité. Il n'y a rien d'obligatoire et rien d'obligé. Peut-être que il y a des techniques qui se découvrent mieux que d'autres parce qu'elles sont davantage rencontrées, parce que leur libération de l'économie, par ailleurs, se fait mieux, je ne sais pas. Il n'y a rien d'obligatoire dans cette affaire. On ne peut rien prédire. Je pose juste qu'on peut poser une hypothèse optimiste sur le fait qu'il est possible de travailler quelque technique que ce soit, parce qu'en toute technique se donne à nous quelque chose.
Et où on le voit pendant de longues périodes assez contemplatives. Vous savez, ces nouveaux tableaux qui fait avec une énorme racle et où il superpose énormément de choses. Et du coup, je me demandais si c'était ce genre de format auquel vous pensiez, entre autres, ou si même ça me faisait penser à Wim Wenders, qui, à l'inverse, dit qu'il conçoit ses plans comme des tableaux. Et si c'est dans ce genre de relation-là, ou si c'est dans la facture même de la technique,
mais... Deux choses, si vous voulez bien. D'abord, si vous permettez, je vais vous dire que je n'ai pas dit que la peinture doit se rapprocher de la... Non, mais je ne vous en veux absolument pas. Je veux juste préciser que je ne l'ai pas dit, et que ce n'est pas par hasard, si vous voulez, parce que ce n'est pas ça que je pense. Ce que j'ai probablement dit, c'est que la peinture a eu à devenir contemporaine de la photographie. Mais si on regarde comment ça s'est passé, ça voulait dire justement qu'au moment où ça, le fait que c'est pas le même art que la photographie est encore couvert, parce que la photographie elle-même ne s'est pas trouvée, ne s'est pas découverte, elle est inventée mais ne s'est pas découverte. Dans ce temps-là, un certain nombre de gens qui professent d'être artistes, on est au 19e, hein, ils essayent de présenter ici et là, ici avec la peinture, là avec la photographie, des images qui sont semblables esthétiquement, qui se ressemblent, donc comme vous diriez, qui se rapprochent dans notre regard. Voilà. Justement, le devenir contemporain de la peinture, de la photographie, le devenir contemporain de la photographie, de la peinture, se sera traduit par une divergence esthétique, c'est-à-dire par le fait que la peinture se sera mise à donner à nous, à voir des choses, on va dire, des tableaux qui ne peuvent pas être confondus avec la photographie et réciproquement. Hein, c'est-à-dire que ça va dans la divergence et ça enrichit l'expérience esthétique possible. Donc ça, c'est le point que je voulais préciser sur la façon de dire les choses. Alors, quant à Richter, donc je suis un peu... Je ne peux pas ne pas vous dire que j'ai écrit un petit texte qui est consacré à Richter et qui s'intitule « Peindre comme un appareil ». Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'avais fait un séminaire il y a longtemps où je lisais les textes de Richter qu'on pouvait lire à l'époque. Et... parce que montrer les tableaux de Richter, c'était dur quand même. Hein. Donc, dans l'université, on peut quand même lire les textes. Montrer les tableaux, c'est plus dur. Et on lisait les textes de Richter. Et donc, il y a des textes de Richter. Il y a plusieurs déclarations de lui qui sont, à mon avis, extrêmement intéressantes. Où il parle de son travail. Et je pense que le mot est bienvenu. Et où il essaye de se décrire, à la fois mentalement et physiquement, comme un appareil, c'est-à-dire son idée est de faire le vide d'intention et de devenir une mécanique opérante comme est l'appareil. L'intention de la photographie, elle n'est pas dans l'appareil, elle est dans le photographe, elle est chez le photographe. Et l'appareil lui-même, il fait quelque chose, donne quelque chose de lui-même, on va dire, mécaniquement. Alors il y a des textes de Richter où il parle de sa peinture, de son art de peindre dans ces termes-là. Donc c'est très intéressant. Je pense par ailleurs qu'on peut, alors pour le coup, interpréter, parce que Richter, ce n'est pas une interprétation, c'est lisible dans le texte, mais on peut interpréter des textes de Klee. Donc moi, je pense que Klee est un bel exemple, par sa peinture et par les textes qu'il lui a consacrés, de ce que pourrait être justement un corps de peintre œuvrant à l'époque de la photographie. Mais ça demanderait un peu plus de discours et de détails.
Oui, moi je reviendrai peut-être au moment où vous parlez de la potentialité d'un format. Le format avance à rencontre avec une intention. Au moment où vous en parliez, moi j'ai eu deux, trois intuitions comme ça, parce que je me dis à un moment, si on regarde la question des proportions, par exemple, le nombre d'or, racine de 2, etc., on se dit qu'à un moment, il y a une époque, une manière de dire, et d'essayer de faire universel, une certaine proportion donne un certain potentiel plus fort, plus juste, plus beau, un format. Si on réfléchit un peu maintenant à d'autres manières de faire, là, je pense à Mondrian, quand lui-même choisissait des formats qui faisaient à sa manière, puisqu'il est bien connu d'un format qu'il n'avait pas encore vu, puisqu'il avait commandé son cadre à telle dimension, il semble, lui, comme individu, en dehors de ses généralités, sans un potentiel très particulier à ce format-là. Il le sent ou il le sait, on ne sait pas trop, c'est un peu délicat à parler de ça. Et d'autre part, si on rajoute encore, parce que j'essaye encore de le dire, parce que nous aussi le format nous intéresse au niveau de l'édition de la page, le format nous intéresse au niveau de la vision de l'optique, si on disait aussi qu'un format qui est censé être dans les nombres 1 sur 1, pour qu'il apparaisse 1 sur 1 doit être truqué, c'est-à-dire en gros toute l'histoire de il faut faire faux pour avoir une histoire de vrai, quoi, comme ça. Donc ça, c'est une première série, je me dis, tiens, je tournais là autour du format comme ça. Et en venant aussi avec la photographie, là j'essaye d'être court et d'être un peu plus précis, je vous ai dit que la photographie nous a habitués par rapport à la peinture, mais on verra Koloff et aussi Bonnard, un peu pareil, c'est logique, nous a habitués à avoir un format préalable dans lequel on a une rencontre, si c'est l'architectuel et presque, et que par contre la photographie nous amène à faire un format par opération de cadrage, c'est-à-dire qu'il y a une saisie d'un moment ou d'une géographie du regard. Et donc c'est la dernière intuition que j'avais. Si je mettais tout ça en couche, on pourrait mettre Richter, Mondrian. Est-ce qu'on pourrait dire que nos potentiels de format, ils sont en train de s'enrichir? C'est une espèce de profondeur des potentiels d'un format. C'est-à-dire que le potentiel actif d'un format de maintenant, si on veut regarder toutes ces couches, est, je vais dire, trois fois, peu importe quel nombre, supérieur à celui du 17e. Quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est tout l'ensemble. Je vous le dis, tout l'ensemble comme ça pour que vous commentiez, vous développiez, je ne sais pas. Voilà.
Eh bien, c'est ce que je voulais dire. Que les potentialités, que nous avons plus de possibilités que jamais. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Je vais juste ajouter une chose, parce que votre remarque, ta remarque, en fait, je crois qu'il arrive qu'on se tutoie. Là. Non ? On ne s'est pas déjà tutoyé ? Ah, voilà. Je vais ajouter un point qui me... Enfin, j'ai glissé une petite phrase à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez entendue, quand j'ai essayé de parler d'une composition pas classique. J'ai dit ce point est important, mais je n'ai pas développé. Parce que tu disais, finalement, on a plus de possibilités ou de potentialités qu'au XVIIe. Alors, pardon ?
Parler, mais...
Oui, oui, d'abord il y a la multiplication des techniques de référence hein, qui font que de toute façon ça s'enrichit. Je voulais ajouter ce point, c'est que peut-être justement dans son art classique, quand elle est un art majeur, la peinture, elle est aussi, elle est peut-être un art dominant parce qu'elle est un art dominé ou commandité. Et pas simplement thématiquement, elle est aussi commandée techniquement, hein, par quelque chose qui pourrait s'appeler les lois de la perspective, qui consiste à désigner un point comme nodal dans le format du tableau. Alors naturellement, on peut le varier, on peut même imaginer qu'il y en ait plusieurs, mais disons qu'il y a quelque chose qui vient dominer la pratique du format, la pratique des potentialités du format, qui est une loi de la peinture, qui n'est pas la peinture elle-même, mais qui est quelque chose qui s'impose comme loi à la peinture et qui en aura fait un art majeur et un art classique. Et que justement, les modernes sont ceux qui se sont sauvés de la domination de la peinture par ses propres lois. Il me semble qu'on peut dire les choses de cette manière-là. Et si Klee est pour moi quelqu'un de très important, c'est pas le seul, Mondrian, je crois, Capital, bien sûr... Mais disons que Klee, ce qui est... Bon, j'ai un peu travaillé, et il y a des textes, quoi. Des textes qui permettent, disons, à quelqu'un qui travaille avec les mots, comme c'est mon cas, d'articuler du langage en se trompant pas trop, disons. Et ce qui est intéressant chez Klee, il y a plusieurs remarques dans son journal, dans ses conférences, qui, à mon avis, reviennent à dire... C'est pour ça que j'ai parlé à un moment des points sensibles, des points névralgiques, des points excitables, etc., que sur la surface d'un tableau qui classiquement serait au fond neutralisé dans son potentiel de format par la loi du point de fuite ou de la perspective, justement dans un point de fuite qu'on travaille à la moderne, il y a une multiplication des zones sensibles, et Klee va même jusqu'à dire que lorsque vous travaillez par exemple en bas à droite, ça résonne, il emprunte le mot à Kandinsky, ça résonne RE en haut à gauche ou ailleurs. Donc pour ça que je disais dans mon propos écrit de conférence de tout à l'heure, que le tableau réagit à l'intention qui le travaille, il la situe, et il la situe de façon diverse, parce que précisément, c'est une donne, et c'est pas neutre.
Moi, j'avais deux remarques, questions. La première, c'est en fait un terme que vous avez utilisé, je crois, à la fin, mais pas au début. Vous parlez avec les du tableau et qu'en fait on recherche des points ou des zones sensibles du format. Est-ce que du coup on ne recherche pas des points ou des zones sensibles en fait du support quand on écrit ou quand on peint? Et ça a l'air tout bête, mais c'est-à-dire la matière avec laquelle on compose, après le format étant la délimitation de cette matière-là. Et je pense à un truc, son nom m'échappe, mais je peux vous le retrouver, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'art pariétal, la peinture pariétale, et en fait il montre que en fait. Non, pas le roi grand, après. Il travaille sur l'art pariétal, et en fait, il étudie ça, et il montre qu'en fait, la peinture compose avec les aspérités de la roche. Donc, pour composer avec un but, il va le faire sur un endroit précis, et il parle de paroi participante, dans le sens un peu matriciel que vous avez évoqué. Donc, je pense que ça, c'est. Enfin, on peut élargir vraiment la question du support, on peut élargir à toutes les techniques en fait, d'inscription qui résistent avec lesquelles on va composer, l'ordinateur compris, hein, quand on code un peu, on sent bien que. La matière résiste, quoi, même si on pense qu'on la commande. Et du coup, ça m'ouvre à la deuxième question, qui est quand vous dites que le formatage, comme ce qui rend inscriptible et serviable, et vous l'avez en fait assez, je trouve, limité à l'ordinateur, alors que en fait, j'ai l'impression que toute opération d'écriture, qu'on commence par prendre une surface et la rendre, en tout cas, inscriptible, serviable en la délimitant. C'est ce que Marie-Christine appelle la pensée de l'écran, c'est-à-dire qu'en gros, on commence par tracer un truc. n'importe où, sur une paroi, dans le ciel, et on dit, ok, c'est là que ça va se passer. Et donc on l'a servi quelque chose. On l'a servi en quelque sorte, puisqu'on dit, c'est là que le sens va apparaître. Il me semble que du coup, le formatage, comme ce qui rend instructif, servir, c'est pas forcément peut-être lié à une technique, mais c'est peut-être plus lié à une espèce d'idéologie de l'écriture où ça serait un sujet qui se pose par rapport à une surface et qui pense qu'on peut projeter comme ça sa volonté, on peut projeter son désir de faire sans que le support résiste en quelque sorte. Voilà, mais c'était plus des remarques.
Aucune objection sur le deuxième point. Parce que finalement, la position que vous développez revient à dire nous ne sommes pas désarmés par notre expérience historique des arts qui existaient déjà. Nous ne sommes pas désarmés, nous avons de la ressource, nous avons déjà rencontré ce problème. Ben, y a d'autres gens qui parlent pas comme vous. Il y a des gens qui nous annoncent des catastrophes avec la dernière génération des poussées techniques. Voilà. Donc si on pense comme vous pensez, qui me semble être la même chose que j'ai essayé de dire, si je vous ai bien entendu, eh bien, nous ne sommes pas dans un état catastrophique. Nous allons pouvoir boire l'apéritif ce soir, enfin, je ne sais pas s'il y en a, peu importe. Joyeux. Voilà. Donc, si vous pensez qu'il y a de bonnes raisons d'élargir à d'autres époques techniques, à d'autres données techniques, ce que j'ai dit apparemment spécifiquement du formatage informatique, ça va dans le sens global de la position que j'essaye de faire entendre et de soutenir. Donc j'ai pas du tout d'objection là-dessus. D'ailleurs, j'ai dit au passage tout à l'heure, parce que ma conférence était quand même très écrite, hein, donc j'ai fait attention à ce que je disais. J'ai dit au passage que cette histoire de format, probablement la peinture dont je parlais à ce moment-là dans mon exposé, elle le partageait avec la technique en général, que c'est un problème du commencement de la technique en général. Donc nous sommes d'accord, hein, sur le fait que simplement il faut faire entendre éventuellement autour de nous que le formatage, ça n'est pas la fin de toute créativité possible. Le formatage tel que... Voilà. Parce qu'en fait, on a déjà rencontré ça. Pour ce qui concerne la première partie de votre question ou de votre remarque, là aussi, je crois que je suis d'accord avec ce que j'entends, en tout cas, de ce que vous dites. J'ai dit, pour ce qui me concerne, que le format est un trait de la matrice, de ce que j'ai essayé d'appeler rapidement matrice, de ce qui fait face, en général, à l'intention. Voilà. Et donc, la matrice a d'autres traits que le format, qui sont peut-être ce que vous évoquez, quelque chose qui serait, alors pour le coup, plus explicitement tracé sur ses propres surfaces, hein, voilà. Mais que peut-être le format serait le trait le plus radical, le moins manifeste, voilà. Et en même temps, peut-être... ce que j'ai essayé de laisser entendre comme j'ai pu par mon choix de métaphore, et en même temps peut-être celui avec lequel le désir de faire s'institue.
Merci Pierre Damalvig.
J'essaie de parler comme ça parce que j'abonne un peu sur ce que disait sur les paroles. Qu'on entend là, oui.
Oui, oui.
Oui. Et quelle relation vous feriez un petit peu, parce qu'il y a un préalable entre espace d'inscription, le ciel est un espace d'inscription sur lequel le vol des oiseaux, etc., des formats. Et je pense à un cas très précis aussi d'ambiguïté. Je pense aux peintures, il y a peinture de James Turrell, mais un espace où on débouche dedans, il y a l'espace chromatique, on ne connaît pas les contours, il y a une chose d'espace qui n'est pas un espace. Là, il y a souvent un passage à faire, une réflexion à faire, parce que nous, l'espace d'inscription nous intéresse beaucoup en tant que objet d'édition, en tant que typographe, graphiste, etc. Et format, voilà. C'est peut-être parce que ce que tu disais sur la grotte comme espace d'inscription, davantage que comme format. Voilà.
Oui. Mais il faudrait naturellement. J'ai une seconde pour répondre. Oui, bien sûr. Et enfin, 40 minutes pour parler, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez pour aller préciser, vraiment voilà, pour préciser beaucoup de choses. Peut-être je répondrai à cette suggestion pour réfléchir, hein, parce que je me suis un peu heurté dans la préparation. Dans une conférence, il y a toujours aussi celle auxquelles vous avez échappé, c'est-à-dire les trucs que j'ai éliminés, je me dis ça, je ne le dirai pas, etc. Bon. Mais il y avait justement, est-ce qu'il faut réfléchir sur la différence entre un cadre et un format, entre un espace d'inscription et un format, etc. Bon. Pour aller vite, je fais la suggestion suivante qui consiste à dire l'espace d'inscription, c'est, comme tu disais à l'instant, c'est une chose, le format c'est peut-être la proportion. Quelque chose qui fait intervenir quelque chose qui est de l'ordre, justement, de ce que j'appelais les lois géométriques des nombres. Alors c'est une formule ramassée, parce que dans les lois géométriques des nombres, il y a à la fois, disons, de l'arithmétique et de la géométrie. Les architectes cisterciens, ils n'avaient pas les calculs, mais ils avaient des tracés géométriques, hein, qui impliquaient les nombres d'or et ces choses-là. Alors peut-être que le format, c'est la mise en jeu des mesures, des proportions dans quelque chose qui par ailleurs est d'une certaine mesure ou d'une certaine proportion dans quelque chose qui par ailleurs est une surface d'inscription.
Parce que là, ça serait le moment où on est amené à dire ça, ça devient un format. Quand on voit un signe dans le ciel, ça devient un format. À partir du moment où on est capable de nommer qu'il se passe quelque chose dans cet espace d'inscription, un petit peu aussi.
Oui, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut peut-être que ça ait une certaine proportion. Pour que ça soit un trait de visage séduisant.
Finalement, on a eu cette question, on n'a pas eu besoin des autres, Pierre Amélie.
Pardon ?
On n'a pas eu besoin de vos questions, finalement, il y en avait assez dans l'assistance. Merci, on va faire une pause de 10 minutes avant d'écouter les trois autres.